Manuel Valls arrive ce soir en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 8 mai, un déplacement essentiellement consacré aux discussions politiques et institutionnelles. Deux des trois auteurs du vol dans une maison de la Tontouta qui a ensuite été incendiée ont été jugés hier. Ce matin, ce sont les agresseurs des gendarmes dans le col de la pirogue le 9 mars dernier qui font face à la justice. Nouvelle séance au Congrès, les élus étudient depuis ce matin deux projets de loi du pays qui concernent la ressource en eau. Dans la région, les élections générales en Australie, c'est samedi. Chaque camp met en avant ses thèmes de campagne. À Rome, les cardinaux ont choisi le conclave pour élire le successeur du pape François s'ouvrira le 7 mai prochain. Et puis en sport, demi-finale aller de Ligue des champions de football demain matin et gros rendez-vous pour le PSG qui se déplace sur la pelouse d'Arsenal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, un mot sur le magazine Citoyen qui suivra cette édition. Lionel Sabot, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Un citoyen consacré au dispositif Sud-Pro.
Oui, le dispositif Sud-Pro qui a été adopté par l'Assemblée de Provence en fin de semaine dernière. Il est mis en place par la Province Sud pour injecter 1 milliard dans l'économie. Et ce sera ce dispositif qui sera au cœur de notre magazine Citoyen tout à l'heure. Alors qu'en attendent les personnes qui vont pouvoir en bénéficier? Ce sera l'une des grandes questions que nous poserons à nos invités. Nous serons avec Claire Barancourt, qui est directrice adjointe de la Direction du développement économique et touristique de la Province Sud, avec Laura-Marie Rivière, qui est fleuriste, et avec Martin Rour, qui est gérant d'une société de smartphones. Rendez-vous dans le magazine Citoyen, juste après votre journal.
Manuel Valls arrive donc la nuit prochaine en Nouvelle-Calédonie pour son troisième déplacement en trois mois. Le ministre des Outre-mer fait le forcing pour aboutir à un accord global. Il doit rester 10 jours sur le territoire jusqu'au 8 mai. Mais, et il se dit prêt à rester le temps nécessaire, Elisabeth Noir.
Arrivé dans la nuit, le ministre des Outre-mer sera à pied d'œuvre dès demain, mercredi 30 avril, pour entamer une nouvelle phase de négociation sur l'avenir institutionnel et il mettra sur la table un nouveau projet d'accord. Il espère que cette nouvelle séquence permettra d'avancer vers un accord global et ce nouveau séjour sera consacré quasiment intégralement aux discussions. Elles débuteront demain mercredi et après une pause le 1er mai, elles reprendront le vendredi toute la journée. Alors on sait que le FLNKS doit se retrouver le 1er mai pour décider de la suite qu'il donnera à ses rencontres en fonction du document que le ministre aura proposé. Mais en principe, dès le vendredi 2 mai, les partenaires se retrouveront pour négocier autour du nouveau projet d'accord. Les négociations feront relâche pendant le week-end, mais elles se poursuivront ensuite lundi, mardi et mercredi. En plus de ces discussions intensives, le ministre des Outre-mer aura tout de même quelques séquences sur le terrain. Il doit notamment effectuer un déplacement dans la province nord et un autre à Marais. Il pourrait aussi se rendre au Médipôle et à Bouloupari pour l'ouverture de la fête du cerf et de la crevette. Il devrait aussi avoir des séquences en liaison avec l'exercice Croix du Sud et il rencontrera le vice-premier ministre néo-zélandais qui sera en visite officielle sur le territoire jeudi et vendredi. Le ministre des Outre-mer qui sera accompagné cette fois encore d'Éric Thiers, le conseiller du Premier ministre pour la Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Faut-il, selon vous, imposer la plus grande confidentialité autour des discussions sur l'avenir institutionnel qui reprennent demain pour donner toutes ses chances à un accord? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 88% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS ne pensent pas que la troisième visite de Manuel Valls permettra de progresser vers un accord global. Ils ne sont que 12% à penser à l'inverse que cette visite permettra d'avancer vers un accord. En bref, le haut-commissaire Louis Lefranc a été nommé préfet du Finistère lors du Conseil des ministres qui se tenait la nuit dernière pour nous. Arrivé en février 2023, il est resté un peu plus de 2 ans en Nouvelle-Calédonie et il quittera le territoire vendredi le 2 mai pour rejoindre sa nouvelle affectation. C'est Jacques Billan qui est appelé à lui succéder comme haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie après sa nomination en Conseil des ministres le 9 avril dernier. Jacques Billan qui devrait prendre ses fonctions dès le 3 mai. Et puis le vice-premier ministre néo-zélandais Winston Peters en visite officielle en Calédonie les 1er et 2 mai. Les honneurs militaires lui seront rendus à l'aéroport de la Tontouta. Il échangera sur place avec des militaires néo-zélandais qui participent à l'exercice Croix du Sud. Avant de poursuivre son déplacement à Nouméa, il doit notamment s'entretenir jeudi soir avec le ministre des Outre-mer. Une page justice maintenant et d'abord deux personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'incendie d'une maison à Tontouta au niveau du domaine de Karanga. Les faits s'étaient produits la semaine dernière dans la nuit du 23 au 24 avril. Dans un communiqué, le procureur de la République annonce l'interpellation d'un majeur et d'un mineur et les investigations se poursuivent afin d'identifier le troisième auteur présumé, Elisabeth.
L'enquête a été ouverte pour vol et destruction par incendie d'une maison d'habitation à Païta. La maison avait été incendiée et un véhicule avait été dérobé alors que le propriétaire des lieux était absent. les caméras de vidéoprotection avaient révélé la participation de 3 individus provenant de la tribu de Bangou. Le véhicule volé a été retrouvé abandonné sur un terrain de football de la tribu. Et samedi, ce sont les parents des 2 hommes qui se sont présentés à la gendarmerie pour révéler leur participation aux faits. Interpellés, les 2 individus ont reconnu leur implication. Ils ont avoué s'être rendus sur la propriété Magnin pour y voler de l'alcool, de la nourriture et de l'argent. Mais ils contestent leur implication dans l'incendie de la maison. L'individu majeur qui est en récidive légale a été condamné à 12 mois de prison avec exécution immédiate et il a été incarcéré. Le mineur a été présenté au juge des enfants et placé sous contrôle judiciaire strict jusqu'à sa comparution à une prochaine audience. Il a notamment interdiction de paraître sur la voie publique entre 18h et 6h sans être accompagné par un représentant légal. Les investigations se poursuivent par ailleurs pour identifier et interpeller le 3e auteur présumé. Le procureur de la République tient toutefois à souligner que dans cette affaire, comme dans d'autres enquêtes en cours depuis plusieurs semaines à Yaté ou à Boulou-Paris, il s'agit avant tout d'actes de délinquance habituels ou de comportements inconséquents ou stupides, mais en aucun cas, indique Yves Dupas, d'agissements préparés et structurés visant à troubler l'ordre public et à intimider la population.
Et puis ce matin, en comparution immédiate, 4 individus sont devant le tribunal correctionnel. Ils sont jugés notamment pour des faits de violence aggravée sur les gendarmes le 9 mars dernier. Les forces de l'ordre avaient été appelées, les gendarmes pris à partie après l'agression de motards dans le col de la pirogue. Au palais de justice, on retrouve Charlotte Coulson.
Oui, vous l'avez dit, Jean-François, les faits remontent au 9 mars dernier. Alors que des motards traversent le col de la pirogue à Païta, ils sont stoppés, contraints de descendre de leur véhicule, puis agressés. Les gendarmes sont appelés par les motards qui parviennent à s'enfuir. Avant leur arrivée, plusieurs voitures sont caillassées. Une jeune fille de 11 ans touchée à l'arrière de la tête par un caillou. Et puis les forces de l'ordre arrivent sur les lieux, s'ensuivent au moins 45 minutes d'affrontement, au cours desquels les gendarmes essuient de nombreux jets de projectiles, sont insultés. Une impression de déjà-vu par rapport aux émeutes de mai 2024, selon la procureure. Plusieurs gendarmes sont touchés et 5 d'entre eux sont blessés. À la suite des faits, 4 hommes sont interpellés et placés en détention provisoire, reconnus grâce à des témoignages et des vidéos. Tous sont déjà connus de la justice pour des faits de vol aggravé, voire de violence aggravée, ayant entraîné une incarcération. Au moment de leur comparution, certains reconnaissent les faits. L'un d'eux, âgé de 21 ans, est responsable du caillassage de la voiture transportant la fillette. Il a également été décrit par les gendarmes comme l'un des plus virulents. De son côté, il déclare regretter avoir touché l'enfant et les gendarmes. 3 ans de prison ont été requis contre lui, dont 2 en ferme. Un autre individu a été identifié comme très alcoolisé ce jour-là. Il a notamment jeté des pierres, insulté les gendarmes et aurait tenté de les charger en pick-up, selon lui, pour les impressionner. Le plus âgé des prévenus, 32 ans, dit quant à lui être arrivé sur les lieux pour tenter d'apaiser la situation avant de se mettre en colère, dit-il. 2 ans d'emprisonnement ont été requis contre lui, dont 1 en ferme. Et enfin, le dernier des prévenus nie son implication dans les faits. Le jugement devrait donc être rendu dans la journée. Les 4 hommes en cours, je le rappelle, jusque 10 ans d'emprisonnement. En direct du tribunal de Nouméa, Charlotte Coulson, RRB.
Merci Charlotte. Il est 11h39. Une pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
À vos agendas, les 3 et 4 mai pour la fête du cerf et de la crevette, venez faire de bonnes affaires. De la bonne viande, 100% locale, 100% savoureuse à prix de gros, sauté de veau, longe de porc, cuisse de cerf, n'oubliez pas votre glacière.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Un dialogue très franc et très constructif. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, est très satisfait du séminaire qu'il organisait pour le gouvernement avec les partenaires sociaux pour avancer sur une réforme sociale et fiscale. Aux 4 jours de travail la semaine dernière, s'est rajoutée une matinée de conclusion hier pour élaborer un projet d'accord cadre. Il est actuellement étudié par les partenaires sociaux pour une signature espérée lundi prochain. Tous les sujets ont été abordés lors de ce séminaire. Emploi, compétitivité, pouvoir d'achat et fiscalité, nous a dit Christopher Gigès. Il est ce matin notre invité.
Sur chacun des sujets, on a des vraies avancées et des vraies convergences. Donc, sur la question de l'emploi, je crois que le fait aujourd'hui qu'il faille un numéro de demandeur d'emploi au niveau de la Nouvelle-Calédonie, un numéro d'emploi au niveau des provinces, ça facilite pas celui qui recherche un emploi et ça facilite pas celui qui aujourd'hui recherche un employé. Donc, on a voulu simplifier tout ça, on a voulu mettre en place différents dispositifs qui permettront aux demandeurs d'emploi d'avoir une facilité à retrouver un emploi et à en créer de la richesse. Sur la question des prix, je crois qu'il y a une vraie convergence sur une crise de pouvoir d'achat en ce moment et donc des mesures sur à la fois des produits de première nécessité, de grande consommation, des échanges beaucoup plus larges avec les pays de la zone pour baisser les prix. Mais en tout cas, non, c'est un vrai esprit de responsabilité et une vraie convergence sur des idées.
Le travail va se poursuivre sur plusieurs points. Les protections de marché vont faire l'objet d'un audit dont le cahier des charges est désormais validé. Audit qui sera confié à un cabinet métropolitain pour assurer son impartialité et qui devrait être terminé dans 5 ou 6 mois. Christopher Gigès va également demander au gouvernement de saisir l'autorité de la concurrence pour qu'elle mène une étude sur la structure des prix et des marges de la grande distribution. Mais pour d'autres mesures, elles pourront être prises et mises rapidement en œuvre.
Par exemple, il y a un avant-projet de loi de pays qui est prêt aujourd'hui sur l'extension des produits de première nécessité de 15 à 60 pour soutenir le pouvoir d'achat des Calédoniens, qui est prêt à passer assez rapidement si l'accord est validé par les partenaires sociaux. On a travaillé avec les partenaires sur un dispositif de maintien et de retour à l'emploi qui doit venir remplacer le chômage partiel qui s'arrête en juin. Le texte est prêt. On a validé avec les partenaires sociaux un certain nombre de dispositifs sur l'intéressement ou des aides aux entreprises. Tout ça, ça peut aller très vite. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord avec les différents partenaires. En tout cas, j'ai bon espoir, vu l'esprit qui régnait hier.
Une fois que les partenaires sociaux auront fait leur retour pour signer l'accord cadre, un comité de pilotage sera mis en œuvre. Nous avons également demandé à Christopher Gigès s'il partageait la conviction qu'il ne peut pas y avoir d'accord économique sans accord politique et réciproquement.
Je pense qu'il faut une partie économique importante dans l'accord politique. Par contre, j'ai entendu Manuel Valls dire « sans accord politique, point de salut pour l'économie calédonienne ». Bien entendu, si on a un accord qui prolonge sur 50 ans la visibilité et une nouvelle Calédonie dans la France et tout le monde devient gentil, bien entendu qu'on prend. Mais on va pas attendre le fait qu'il y ait un accord pour relancer l'économie calédonienne. S'il n'y a pas d'accord, au final, il n'y a plus de référendum, il n'y a plus de consultation, parce qu'il faut modifier la Constitution. Et je comprends pas trop, enfin aussi je comprends peut-être un peu la volonté de Manuel Valls de mettre une certaine pression sur ceux qui sont autour de la table. Mais l'économie calédonienne, tous les jours, on travaille à ce qu'elle se relance. Et les jours qu'on a passés avec les partenaires sociaux montrent qu'il y a des solutions à trouver par nous-mêmes. Tout le monde connaît ma sensibilité politique. Je suis profondément attaché à la République. Mais on peut faire aussi des choses par nous-mêmes. Et je l'ai toujours dit ces derniers temps, le modèle économique national ne doit pas être copié-collé au modèle calédonien. Il faut qu'on construise notre modèle. Enfin, d'avoir un empilement de taxes, un empilement de normes sur pour une île de 270 000 habitants, c'est peut-être trop.
Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, était donc notre invité ce matin et l'intégralité de cette interview est à retrouver sur notre site internet rrb.nc. La protection de la ressource en eau au cœur de la séance du Congrès. Les élus sont en effet de nouveau réunis en séance publique depuis ce matin pour examiner 2 projets de loi du pays et 3 projets de délibération, Nicolas Legrand.
Oui, tout d'abord un projet de loi du pays relatif au domaine public de l'eau de la Nouvelle-Calédonie et à la protection de la ressource en eau qui a été largement débattu. C'est pourtant un texte qui est discuté depuis 2019 et c'est même une priorité portée par le schéma d'orientation de la politique de l'eau partagée. L'objectif est en fait de moderniser le cadre réglementaire concernant la protection de l'eau, qui est une compétence partagée entre les différentes institutions et qui est régie par une délibération de 1968, un texte devenu obsolète et qui empêche la Nouvelle-Calédonie d'agir convenablement selon le gouvernement. Ce projet de loi du pays possède un long parcours législatif, je le disais, avec une 20aine de commissions réunies et il était d'ailleurs inscrit à l'ordre du jour de la séance du 20 novembre 2024. Ce projet de loi du pays avait été de nouveau renvoyé en commission après l'adoption d'une motion préjudicielle en raison de l'intégration d'un principe de pollueur-payeur qui venait créer en fait une redevance pour les usages et les rejets en eau, une nouvelle taxe critiquée par les loyalistes et le rassemblement qui a été retirée depuis par le gouvernement présidé par Alcide Ponga. Le projet de loi réduit en fait l'emprise du domaine public de l'eau par rapport à la précédente délibération de 1968. Des critères précis sont établis pour définir le domaine public de l'eau, permettant de concentrer les moyens de gestion sur les enjeux prioritaires. Les droits et obligations de la Nouvelle-Calédonie, comme des riverains d'ailleurs, sont définis en matière d'entretien et d'usage du domaine public. ainsi que la protection des ressources en eau qui passe par l'obligation d'instaurer des périmètres de protection des eaux pour tous les points de prélèvement visant l'alimentation en eau potable, de comptabiliser les prélèvements dans la ressource et d'encadrer également tous les rejets par des normes et des autorisations. Dans la discussion, Lionel Brinon des Loyalistes a pris la parole. Il a déclaré que ce projet le dérangeait depuis la modification de la loi organique qui prévoit que des cadres réglementaires différents s'appliquent entre les terres de droit coutumier et les terres de droit commun concernant l'eau. Le texte ne s'appliquerait donc pas automatiquement aux terres coutumières qui feront l'objet de conventions. Le débat s'est donc ensuite porté sur la gestion du foncier, largement en Nouvelle-Calédonie, sachant que les terres coutumières se situent très régulièrement en amont du domaine public. Alors le vote des 67 articles de la loi vient tout juste de se terminer. On en est aux explications de vote. Le texte devrait être adopté avec une majorité de 33 voix et 14 voix contre des loyalistes et du Rassemblement. Les élus examineront ensuite un projet de loi du pays portant moratoire sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales au sein de l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. Trois autres textes sont ensuite inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de trois projets de délibération. L'un vise à créer un fonds de conservation de la mer de corail. Un autre déclare l'urgence climatique et environnementale en Nouvelle-Calédonie et définit également la stratégie calédonienne du changement climatique. Et enfin, le dernier texte doit créer un fonds de résilience calédonien du changement climatique. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Legrand, RRB.
On en vient maintenant à l'actualité dans la région et notamment en Australie où les élections générales se préparent. Elles auront lieu samedi prochain. La campagne électorale bat donc son plein et chaque camp développe ses idées. On fait le point avec notre correspondant à Sydney, Jean-Pierre Zajac.
Les travaillistes, emmenés par le Premier ministre sortant, Anthony Albanese, ont constamment adopté pour thèmes principaux la santé et les énergies renouvelables. Au passage, et malgré leur intention de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire, ils ont écorché l'intention de la coalition libérale nationale de Peter Dutton de construire des centrales atomiques afin d'alimenter le pays en énergie constante et bon marché. Afin de lutter contre la cherté de la vie, Peter Dutton a également déclaré que s'il est élu, il réduira pour un an le droit d'accise des carburants de 50 à 25 centimes par litre. Il projette aussi de relever le budget de la défense, qui sera porté à 3% du produit intérieur brut en 10 ans, alors que les travaillistes n'envisagent sur la même période que de le faire plafonner à 2,3% contre 1,9% actuellement. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, il est 11h et bientôt 49 minutes. Une nouvelle pause dans ce journal et dans un instant, on se retrouve pour parler de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
MyPrimeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook MyPrimeur Nouméa. Du lundi au dimanche, MyPrimeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité nationale et internationale, on retrouve Jean-François Bodin.
Les cardinaux ont tranché, le conclave s'ouvrira mardi 7 mai. Ce jour-là, ils se retrouveront donc dans la chapelle Sixtine qui sera fermée à clé jusqu'à temps que les 135 cardinaux électeurs se soient mis d'accord sur le nom du nouveau pape. Un événement qu'ils préparent en participant chaque jour aux congrégations générales, ce qui leur permet d'échanger entre eux et de commencer à se faire une idée des potentiels cardinaux qui pourraient succéder à François. Les obsèques du pape ont aussi permis aux chefs d'État présents d'échanger sur plusieurs dossiers. On a ainsi appris qu'Emmanuel Macron avait pu s'entretenir avec Donald Trump, auquel il a demandé une ligne plus dure vis-à-vis de Vladimir Poutine. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Emmanuel Macron pense avoir convaincu Donald Trump d'être plus dur avec Vladimir Poutine via des menaces d'escalade et de sanctions. Une partie de l'équation dépend de la Russie, reconnaît le président. Lui, qui espère se poser en médiateur, assure néanmoins que la troisième chaise sur la photo de Donald Trump et Volodymyr Zelensky au Vatican Vatican n'était pas pour lui, mais qu'elle était destinée à un interprète. Pour autant, Emmanuel Macron veut faire passer un message. Les Européens se font désormais entendre et pourront s'asseoir le moment venu à la table des négociations de paix. Ainsi, la semaine prochaine s'annonce cruciale pour afficher l'unité du continent. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, sera à Paris le 7 mai, au lendemain de son arrivée au pouvoir. Deux jours plus tard, un traité d'amitié sera signé avec la Pologne, un pays clé pour assurer la défense de l'Europe face à la Russie.
Vladimir Poutine qui a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours du 8 au 11 mai prochain, ce qui correspond aux célébrations de la victoire russe sur l'Allemagne nazie en 1944. Volodymyr Zelensky dénonce une tentative de manipulation et réclame de son côté un cessez-le-feu de 30 jours. Demande soutenue par le président américain qui a aussi rencontré Volodymyr Zelensky à Rome lors des obsèques du pape François.
Je pense que la rencontre avec Zelensky s'est bien passée. J'ai été très déçu que des missiles aient été tirés depuis la Russie. Nous verrons comment cela évoluera. Zelensky veut en tout cas conclure un accord. Je veux que Poutine arrête de tirer, qu'il s'assoie et qu'il signe cet accord. Qu'il en finisse et qu'il reprenne le cours normal de sa vie.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette panne d'électricité qui a touché toute la péninsule ibérique. Blackout total en Espagne et au Portugal, dont on ne connaît pas la cause exacte. Certaines régions commencent à être réalimentées, notamment grâce à l'aide de la France et du Maroc. La vie courante des habitants a été fortement perturbée. Écoutez le témoignage de ce Français habitant à Barcelone.
On a été coupé de 12h30 jusqu'à 16h. On ne savait rien. On n'avait pas accès ni au téléphone, ni au Wi-Fi, ni à la 5G, ni à la télé, ni à Internet, ni rien du tout. Donc effectivement, les rumeurs les plus folles circulaient. Au niveau des transports, c'est la folie, avec des personnes qui étaient bloquées dans les ascenseurs, notamment des métros, avec des interventions de pompiers. Il y avait énormément de gens dans la rue à Barcelone, puisque tout le monde a quitté son travail. On aurait dit une journée de vacances et les gens profitaient un petit peu des terrasses, de la bonne humeur, etc. Par contre, il y avait un petit côté Covid à partir du moment où il y a eu de longues files d'attente dans les boulangeries pour réussir à avoir un petit peu de nourriture et où les supermarchés ont commencé à fermer puisqu'ils n'avaient pas de courant, ils étaient dans le noir et ils ne pouvaient pas non plus faire fonctionner leur carte bleue ni les tiroirs caisses. Donc il y avait un petit peu la double ambiance des gens qui paniquaient pas, qui étaient en terrasse, mais également on voyait autour tous les mouvements de pompiers, de police, etc.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. En métropole, l'assassin présumé d'Aboubacar Cissé, poignardé à mort dans une mosquée du Gard, s'est rendu accompagné par son avocat près de Florence en Italie. Il s'agit d'un Français d'origine bosnienne né à Lyon en 2004. Une procédure d'extradition vers la France est en cours. Le parquet de Nîmes a ouvert une information judiciaire pour assassinat commis en raison de la race ou de la religion. Et puis l'enquête avance aussi concernant les dégradations commises contre des centres pénitentiaires ces derniers 15 jours. Une vingtaine de personnes a été interpellée, toutes proches de la DZ Mafia. Ce qui confirme que les actions contre les centres pénitentiaires ont été perpétrées par les milieux des narcotrafiquants en réaction à la construction de prisons sécurisées. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale et sa collègue en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, ont reçu un rapport qu'elles avaient commandé sur l'antisémitisme en France, rapport dont les conclusions semblent accablantes. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
La France est le pays européen où les juifs sont le plus persécutés. Une agression physique a lieu tous les 3 jours et les agresseurs sont de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, les moins de 35 ans représentent presque la moitié des actes antisémites et 23% d'entre eux jugent acceptable de taguer une synagogue ou un commerce juif. Alors, pour la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, l'origine de cette haine ne fait aucun doute.
La responsabilité historique de l'extrême-gauche dans le réarcinement de l'antisémitisme est écrasante, accablante. Je l'ai dit, je le répète et je l'assume. Depuis le 7 octobre 2023, cette responsabilité tient en 3 lettres, LFI. Un parti politique qui a fait de la haine d'Israël non pas un dérapage, mais bien une stratégie électorale.
Ce rapport pointe clairement la responsabilité de l'extrême-gauche dans la modernisation de l'antisémitisme et présente plusieurs solutions. Tout d'abord, le renforcement du cadre juridique avec des sanctions beaucoup plus lourdes, mais aussi la mise en place de référents dans les écoles dédiés à cette cause.
11h55, la dernière pause dans ce journal avant l'actualité sportive et on parlera évidemment du déplacement demain sur la pelouse d'Arsenal du PSG en demi-finale allée de la Ligue des Champions. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
3 francs de remise tous les jours, et le mardi, c'est même 5 francs. Et des points accumulés.
Avec vos stations Shell et Pacific, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 3 francs par litre tous les jours grâce à votre carte fidélité. Et encore mieux, c'est 5 francs par litre le mardi, et tous les jours que je cumule des points qui se transforment en bon d'achat. Les stations Shell et Pacific, toujours à vos côtés pour économiser.
Le 1er mai, offrez plus qu'une fleur de bonheur, offrez un brin de muguet. Chez Happy Flower, nous vous proposons des brins traditionnels, de jolis bouquets et de délicates compositions pleines de charme. Retrouvez-nous dans notre boutique à Ducos, spécialement ouverte le 1er mai, en face du cimetière du 5e kilomètre sur le parking et en face de l'îlot artificiel de Sainte-Marie. Happy Flower, parce qu'un simple brin peut illuminer tout un cœur.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Voilà, l'actualité sportive, ça va d'abord être du football, n'est-ce pas Lionel Sabot, avec le coup d'envoi demain matin des demi-finales allées de la Ligue des Champions.
C'est
un seul match au programme, mais quel match ? Le PSG sera en déplacement à Londres.
Un déplacement à l'Emirates Stadium pour affronter les Gunners d'Arsenal après avoir fait tomber Liverpool et Aston Villa. Les hommes de Luis Enrique s'attaquent à un nouveau monument du football britannique. Il faudra être costaud hein, côté parisien face à une équipe qui a éliminé en quart de finale le tenant du titre, le Real Madrid. À domicile, les Gunners, poussés par leur public, sont en général intraitables. C'est donc une rencontre compliquée qui s'annonce pour le PSG. Les Parisiens qui n'ont pas franchement bien préparé cette demi-finale en concédant, vous en souvenez, le week-end dernier, une défaite, la première de la saison en championnat. Toutefois, à la veille de la rencontre, Vitinha, le milieu de terrain du PSG, aborde cette demi-finale avec une certaine sérénité.
C'est forcément un jeu différent, un match différent, même pour le stage de la compétition. Et bien sûr qu'on va essayer de faire un résultat différent, on va tout faire. On ne va pas changer beaucoup notre manière de jouer parce qu'on est toujours fidèle à notre manière, à notre façon de jouer. Mais bien sûr qu'on va faire les choses différentes parce que demain, on ne veut que gagner.
Arsenal Paris Saint-Germain, première demi-finale allée de la Ligue des Champions. Ce sera à suivre demain matin pour nous. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 6h, heure de Nouméa. L'autre demi-finale, ce sera jeudi matin avec une confrontation entre le FC Barcelone et l'Inter Milan.
Et puis un petit mot de tennis, un tout petit mot, puisque suite à la gigantesque coupure de courant sur l'ensemble de la péninsule ibérique dont nous avons parlé tout à l'heure, la plupart des matchs du tournoi Hommes et Dames de Madrid ont dû être reportés.
Oui, alors chez les Dames, alors que la numéro 4 mondiale Coco Gauff était en pleine interview d'après-match sur le court Arancha Sanchez, son micro et les panneaux publicitaires sont brusquement éteints. Chez les messieurs, sur le court central, la coupure de courant a immobilisé une caméra qui est en suspension au-dessus du court, empêchant la poursuite du match entre Grigor Dimitrov et le Britannique Jacob Fenley. Non loin de là, sur le court numéro 4, le duel entre le tombeur de Novak Djokovic au deuxième tour, Matteo Ardani, et le Bosnien Damir Djur a été brièvement interrompu, mais il a pu s'achever sur une victoire 6-3-6-4 de l'Italien. Il y a quand même des résultats. Outre Ardali et Gauff, la joueuse russe Mira Andreeva a également eu le temps de se qualifier pour son deuxième quart de finale d'affilée sur la terre battue madrilène. Pour les autres rencontres, la journée de lundi à Madrid s'est résumée, sans jeu de mots, par un énorme blackout. Les matchs reprendront ce soir pour nous.